Bonjour et bienvenue. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens de ce 21 décembre 2018, dernière émission de l'année avant les vacances de Noël. C'est Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11h30. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
L'hiver qui est arrivé aujourd'hui.
Je sais pas quelle heure,
Non, il faudrait vérifier.
Bon, ouais.
Oui, je sais que c'est le 21 décembre, c'est pas toujours le cas, hein, ça peut être le 20 ou le 22, mais...
Même le 20 à l'occasion.
Oui, c'est ça, mais aujourd'hui c'est le 21 et c'est l'hiver, mais ça ne paraît pas du tout.
Hein? Non, j'ai sorti mon parapluie.
Oui, ça tombe à grosses gouttes, là. Je ne sais pas s'il y a des périodes de répit, on avait dit que ça allait tomber... de manière soutenue pas mal toute la journée, avec quelques moments de répit en après-midi.
Oui, quand je suis arrivé ce matin vers 8h15, il y avait comme un répit, comme vous dites.
Moi, j'ai conduit avec mes essuie-glaces en troisième vitesse, et si j'avais une quatrième vitesse, je l'aurais utilisé aussi. Il faut vraiment faire attention si on est en voiture. Aussi de l'aquaplanning ou de l'aquaplanage. Je ne sais pas si lequel est le bon mot. J'hésite toujours à chaque fois que j'emploie ce mot-là. Je vais vérifier, on en reparlera.
L'aquaplanage, c'est quand on arrose les piétons.
Quand on arrive dans une espèce de flaque d'eau et que ça nous fait perdre le contrôle, ça peut être dangereux, là. Ça nous arrive par surprise. C'est pas une bonne surprise. Habituellement, j'aime beaucoup les surprises, mais pas ce genre de surprise-là.
Mais surtout pour les piétons, faites attention, n'allez pas trop vite. Il y en a qui font exprès, qui paient sur le gaz.
Ils sont pas gentils, ceux-là.
Ça arrive.
Non, c'est ça.
Faut pas généraliser, là. C'est des cas.
Oui, mais il y en a quand même. Je compatissais avec ceux et celles qui attendaient l'autobus et qui nous regardaient, les automobilistes, en disant « Tasse-toi parce que j'ai pas envie d'être splashé en bon français. » Je sais que c'est pas du bon français du tout, mais à Montréal, on a été épargné quand même. On peut dire échappée belle parce que ailleurs, il y a beaucoup de pluie verglaçante. J'entendais qu'en Colombie-Britannique, il y a des grosses pannes d'électricité à cause de grands vents. Puis aussi des écoles fermées un peu partout, dans les Laurentides, la Naudière, ailleurs au Canada aussi. Alors, on se plaindra pas.
Un congé qui commence plus tôt pour les jeunes.
Oui, c'est vrai. Un congé pas prévu. Alors, on aime ça, en tout cas. J'imagine que les enfants n'ont pas pleuré.
Moins les parents, mais les enfants sont morts de rire.
Malgré que les enfants, j'imagine qu'ils avaient hâte à cette journée-là, parce que souvent, la journée qui finit l'école, avant les vacances, les enfants, ils vont en pyjama, il y a des échanges de cadeaux. Je ne sais pas s'ils vont remettre ça un peu plus tard.
J'ai pas de souvenir, là. C'est trop loin.
Oui, moi, j'ai des souvenirs, mais pas nécessairement de me rendre à l'école en pyjama, là, mais
même les cadeaux,
je sais que ça se passe comme ça cette année.
Oui,
des cadeaux, mais ça dépend des classes, ça dépend des décisions des professeurs. Oui, les maîtresses, non plus, on ne dit pas ça, on dit plus ça.
Non, mon Dieu,
pas vraiment. Okay. Alors, qu'est-ce que je voulais... Oh oui, c'est vrai, étant donné que l'hiver arrive aujourd'hui, mais ça paraît pas du tout, en tout cas pas dans la grande région de Montréal, nous, on va s'en occuper, Maurice, en mettant des chansons qui évoquent Noël, mais aussi l'hiver.
Un peu de neige.
Oui. Alors, je vous écoute. On a parlé beaucoup, surtout moi. Je vous écoute maintenant.
Moi aussi, je vous écoute. Donc, ce 21 décembre, depuis 2006, drôle de journée, ce 21 décembre a été déclaré la journée mondiale de l'orgasme. Un groupe d'anglo-saxons qui ont décidé
que... Ah oui, j'ai entendu ça!
Comme c'est la journée la plus courte de l'année, aussi bien en profiter. Et dans un monde idéal, il faudrait que les 7 milliards d'humains si tout le monde faisait l'amour en même temps, il se dégagerait un aura de bien-être planétaire.
Dit-il, les bras grands ouverts.
Après, on est toujours prêt à essayer.
Oui.
Donc, et voilà. C'était la journée mondiale de ce 21 décembre. Quelques dates. En 1898, Pierre et Marie Curie nomment radium un nouvel élément obtenu par cristallisation successive. Ils étaient aidés de M. Gustave Bémont. Puis il s'avère que le radium est 900 fois plus actif que l'uranium. En 1903, c'est le premier prix Goncourt qui est décerné. On le donne à Jean-Antoine Nau, qui a écrit « Force ennemie ». 1913, autre parution du premier mot croisé dans le New York World. Le succès sera tel qu'en moins de 10 ans, tous les journaux auront leur mot croisé. En 1937, à Los Angeles, c'est la première de Blanche-Neige, des studios Disney. C'est un premier long métrage d'animation.
Le premier film que j'ai vu quand j'étais toute petite. Je pense que j'avais 4 ans, puis mes parents m'avaient amené au cinéma.
Ça marque.
Ça marque, on n'oublie pas. La sorcière avec la pomme.
La princesse aussi.
Ah ben oui. Et le prince et les nains.
En 1942, c'est le début du rationnement du beurre au Canada. On n'a pas connu ça, mais ça devait être sûrement à cause de la guerre. Les vaches étaient stressées, faisaient moins de beurre, moins de lait. En 1958, Charles de Gaulle est élu président de la 5e République par un collège parlementaire. Il fera ensuite instaurer l'élection du président au suffrage universel. En 1963, les services météorologiques du Canada reçoivent leur première photo transmise par satellite. 65, c'est la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale qui est adoptée par l'ONU. C'est la première, en 1967, la première de Graduate, le lauréat, avec entre autres Dustin Hoffman, la musique de Simon & Garfunkel.
Inoubliable film.
Un classique. En 1968, c'est le lancement d'Apollo 8, première mission spatiale habitée au-delà de l'orbite terrestre, oui. En 1974, à Montréal, on retrouve le cœur du frère André, qui avait été volé en mars 1973, qui est donc retrouvé un an et demi plus tard. En 1977, c'est la loi qui crée le système d'assurance auto, qui est adopté par l'Assemblée nationale. En 1985, ouverture du premier restaurant de l'association Les Restos du Cœur. On y va. En 1999, des savants américains trouvent dans une protéine infectieuse un lien entre la maladie de la vache folle et celle de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme. La femme aussi. En 2005, la Cour suprême du Canada autorise les clubs échangistes sexuels entre adultes consentants. Ça va bien avec la journée mondiale d'aujourd'hui. Et voilà, ça fait le tour de ce 21 décembre. On souligne une naissance. L'acteur et metteur en scène de Jean Gascon est né en 1981. Il nous quittait en 1988. Et Michel Tisser...
Il est né en quelle année, vous dites,
1921.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Et Michel Tisser, animatrice de radio et de télévision et traductrice québécoise, nous quittait en 2014.
La mère de Charles,
ouais, Tisser. Oui, ouais, ouais. Elle était quand même morte assez vieille. Elle était née en 1918.
Oui, oui, nonagénaire.
Oui, 94 ans passés. Ça fait le tour de ce 21 décembre.
Merci beaucoup. En une de la presse, Salvaille sera accusé. Des accusations seront déposées contre Éric Salvaille après la période des fêtes, a appris la presse. Le DPCP a retenu contre le producteur et animateur plus d'un chef d'accusation en lien avec des inconduites sexuelles. Aussi, du cerf de Boileau, il n'y en aura plus. La maladie du chevreuil fou a sonné le glas de ce produit d'exception. Affaire globale 7500. L'avion grâce auquel Bombardier veut grandir. Et art, cinéma, Vice, le vice-président de l'ombre, Christian Bale, est méconnaissable dans le rôle de Dick Cheney. Une exclusivité, Katia Gagnon, le directeur des poursuites criminelles et pénales, a terminé son examen du cas Éric Salvaille. La procureure chargée du dossier, Amélie Rivard, déposera des accusations contre l'animateur après la période des fêtes, a appris la presse. Selon les informations que nous avons recueillies auprès de plusieurs sources, le DPCP est prêt à accuser Éric Salvaille pour au moins un plaignant. L'animateur et producteur ferait l'objet de plus d'un chef d'accusation en lien avec des inconduites sexuelles. Les faits qu'on lui reproche dateraient de plus de 20 ans et se seraient déroulés dans un milieu de travail. Les gestes se seraient produits sur une assez longue période qui s'étendrait sur des mois. À cette époque, M. Salvaille était dans la vingtaine et commençait sa carrière télévisuelle. Il travaillait notamment comme animateur de foule pour diverses émissions de télévision. Selon ce que nous avons appris, les avocats de l'animateur auraient été contactés il y a quelque temps. On les aurait alors avertis du dépôt imminent de ces accusations. Éric Salvaille se trouve actuellement dans sa résidence de Fort Lauderdale, en Floride, et sera de retour en janvier. C'est à ce moment que le DPCP annoncera qu'il dépose des accusations. Chez le DPCP, on se refuse à tout commentaire. Je ne peux absolument pas commenter. Je ne suis en mesure de vous donner aucune information. Les éléments dans ce dossier n'ont encore aucun caractère public, déclare Jean-Pascal Boucher, porte-parole de l'organisme. Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre M. Salvaille ainsi que ses avocats, mais ils n'ont pas donné suite à nos appels. La presse a révélé en octobre 2017 qu'Éric Salvaille s'était livré depuis deux décennies à des inconduites sexuelles dont plusieurs avaient eu lieu en milieu de travail. 11 personnes nous avaient raconté avoir été victimes ou témoins de gestes à caractère sexuel faits par l'animateur. La maladie du chevreuil fou a eu raison du cerf de Boileau. Une centaine de jours après le premier diagnostic, l'entreprise vient d'abattre son dernier animal et se faisant de réduire à néant 20 ans de travail pour développer un produit gastronomique réputé. Denis Ferrer, le directeur de l'entreprise, l'affirme sans ambages. Maintenant que les 3500 cerfs rouges de l'élevage sont morts, c'est fini. Personne ne voudra prendre le risque de réinjecter des fonds et des années pour redémarrer un projet sous la menace d'une épée de Damoclès. La chute du porte-étendard de l'industrie a un impact sur tous les éleveurs de cerfs de boucherie du Québec. Le président de leur association, Gaétan Lehoux, parle de crise et demande un programme d'aide au gouvernement comme celui mis en place lors des épidémies de maladies de la vache folle ou de tremblante du mouton. La découverte d'un cas de maladie débilitante chronique du cervidé dans un enclos de cerfs de Boileau à la mi-septembre a entraîné un véritable branle-bas de combat sanitaire dans la région d'Argenteuil tout l'automne. Voulant à tout prix éviter que la maladie ne se propage parmi les cerfs de Virginie sauvage, les autorités ont abattu des centaines de bêtes sauvages autour de l'élevage, en plus de signer l'arrêt de mort des 3500 cerfs de Boileau. Le terme « douchebag » est une insulte, tranche un juge. Un jeune homme qui a lancé l'invective à des policiers de Québec devra payer une amende de 150 $. On peut complimenter un homme sur ses muscles saillants, son bronzage parfait ou ses tatouages exotiques, mais le traiter de « douchebag » constitue une insulte, a tranché un juge de Québec qui a étudié la question. Alors... Je vais continuer. Le magistrat devait déterminer si un jeune homme qui avait utilisé l'expression à l'endroit de policiers de la Ville de Québec avait violé un règlement municipal qui interdit d'insulter les forces de l'ordre. L'histoire avait commencé pendant la nuit de la Saint-Jean-Baptiste, l'été dernier sur la Grande Allée, une artère de Québec particulièrement animée en soirée. Esti de gros douchebag avait lancé le jeune Philippe Blainé à un tandem de policiers qui intervenait auprès d'amis. « Qu'est-ce que t'as dit, toi? » lui a demandé un policier. M. Blainé a répété son trait d'esprit, selon les témoignages ensuite entendus au tribunal. Il a plus tard reçu un constat d'infraction en vertu de la réglementation municipale. Et un peu plus loin, d'autres injures illégales, d'autres juges ont eu à analyser des propos colorés afin de déterminer s'il s'agissait d'injures à des policiers contraires à un règlement municipal. Alors, ces injures sont deux de pique, il y a de la corruption et « es-tu cocu? » L'ancien directeur général de la Ville de Montréal, Alain Marcoux, sort de sa retraite forcée et reprend du service, mais cette fois à Terrebonne. « Je ne me suis jamais vu comme un retraité, j'étais sans emploi », laisse-t-il tomber avec un sourire dans la voix. Jusqu'en juin dernier, Alain Marcoux occupait les fonctions de directeur général de la Ville de Montréal. Il a été remercié de ses services quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Valérie Plante, qui souhaitait avoir une direction générale en parfaite adéquation avec sa vision politique. Sur le site de l'hôpital Saint-Luc, démoli l'automne dernier, les travailleurs s'affairent à construire le stationnement du nouveau CHUM qui comptera à terme environ 1350 places réparties sur 5 étages. Au cours des prochains mois, les structures souterraines seront terminées, puis le chantier sortira de terre au printemps avec l'érection de la structure d'acier de l'amphithéâtre et de la structure de béton des pavillons, 23 étages dont les sous-sols, abritant des cliniques externes, des bureaux et une bibliothèque. Et finalement, le chef du Pentagone claque la porte. La démission de Jim Mattis survient au lendemain de l'annonce du retrait des troupes de Syrie. Le chef du Pentagone, Jim Mattis, a brutalement annoncé hier sa démission du gouvernement de Donald Trump. Le départ de cet homme d'expérience très respecté sur la scène internationale et qui incarnait une forme de stabilité au sein d'une administration traversée de secousses est un coup dur pour l'impétueux président des États-Unis qui apparaît de plus en plus isolé. Dans un courrier adressé aux locataires de la Maison-Blanche, cet ex-général des Marines de 68 ans insiste sur la nécessité pour les États-Unis de traiter les alliés avec respect, marquant implicitement son désaccord avec un président qui a pris pour cible, un à un, au cours des derniers mois, les dirigeants des principales puissances occidentales.
J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite, pis j'avais frais, quand je revenais de passer 3 heures dans un igloo, qu'on avait fait 2 ou 3 gars chez Girondou. J'ai devant les yeux, quand je suis heureux, une sorte de jeu, qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé, et le temps des fêtes avec sa tête une sucre d'hockey, parce que je voulais me faire passer pour un Garvey. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avaient habillé en communion. Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire que les cadeaux, ça venait pas tout de petits puits frères. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. Ça me tente des fois d'aller la voir puis d'y parler. Fais des étoiles, peux-tu avoir un autre hockey? J'ai perdu le mien, beau sans décès, je l'ai échangé contre des photos, on voit rien. Une fille de l'eau qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier.
Beau dommage, 23 décembre.
Eh oui, une incontournable. Et c'est vrai que cette année, la chanson dit vrai, puisqu'on sera de retour le 7 janvier. La programmation des émissions reprend donc le 7 janvier. Ça tombe un lundi cette année, en 2019, devrais-je dire. En une du Devoir, projet Énergie Saguenay, Québec n'évaluera pas l'impact environnemental du gaz naturel transporté. Le Père Noël ou la vérité? Les parents sages sont-ils ceux qui mentent? C'est un texte de Catherine Lalonde. Entrevue Humaniser le visage des migrants, la présidente de MSF, Médecins sans frontières, déplore une bascule sans précédent envers le travail élémentaire. On parle ici de Joanne Liu. Aussi, en une toujours, Zeitgeist, la chronique de José Blanchette, sa dernière avant son retour le 11 janvier, les lutins de Zumba, parce que Noël s'est fait pour donner. La CAQ dit non à la poursuite des fouilles au site quartier Robertval. Et quelle toile les premiers ministres québécois ont-ils choisi? Le gouvernement du Québec n'exigera aucune évaluation des impacts environnementaux imputables à l'exploitation du gaz naturel de l'Alberta qui sera transporté au Québec et exporté grâce au projet Énergie Saguenay, a appris Le Devoir. La future usine de liquéfaction fera pourtant de la province un point névralgique pour la mise en marché de gaz exploité par fracturation hydraulique. Le projet Énergie Saguenay de l'entreprise GNL Québec comprend une usine de liquéfaction de gaz naturel et un terminal maritime d'exportation qui sera situé à Grand-Anse sur la rivière Saguenay. Ce nouveau complexe exporterait chaque année 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié qui serait transporté au Québec grâce à un nouveau gazoduc de 750 km qui sera construit par gazoduc et connecté au réseau principal de TransCanada qui part de l'Alberta. Selon trois experts consultés par Le Devoir, l'essentiel du gaz qui sera acheminé au Québec sera exploité en utilisant la méthode controversée de la fracturation. Quartier Robertval. En dépit des recommandations des archéologues, le site de la colonie fondée par Jacques Cartier en 1541 ne fera pas l'objet de nouvelles fouilles. Le gouvernement caquiste a plutôt annoncé la mise en valeur du promontoire de Cap-Rouge par l'entremise d'un belvédère et d'un centre d'interprétation de 8,4 millions de dollars. Seul le cinquième des 1500 mètres carrés de la colonie éphémère a été exploré, et les fouilles interrompues il y a 10 ans auraient pu être achevées pour une somme similaire, déplore l'archéologue Gilles Sanson. Si on avait ajouté 3 ou 4 millions, on y était. Or, le temps presse, rappelle le spécialiste en évoquant l'acidité des sols et la présence d'animaux fouisseurs qui menacent l'ensemble des vestiges du promontoire, y compris les secteurs qui n'ont pas encore fait l'objet de fouilles. Il fallait faire des choix, évidemment. Il fallait être responsable, explique Jean-François Del Torchio, le directeur des communications de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Les 8,4 millions sont au niveau de la création d'un belvédère, d'une passerelle, c'est aussi pour continuer les recherches sur les artefacts qui ont été trouvés. Le centre d'interprétation du site Quartier Robertval devrait accueillir ses premiers visiteurs en 2022. Les vestiges du site Quartier Robertval ont été découverts en 2005 lors des travaux précédents, l'aménagement de la promenade Samuel de Champlain. La phase 1 des fouilles, lancée en grande pompe par le premier ministre Jean Charest, a permis de dégager 6 000 artefacts entre 2006 et 2008 au coût de 8 millions de dollars. L'armée et la police tentaient jeudi de trouver les auteurs du survol de drones qui paralyse l'aéroport londonien de Gatwick, deuxième en importance au Royaume-Uni depuis mercredi soir, affectant des dizaines de milliers de passagers à quelques jours de Noël. Nous anticipons que les perturbations se poursuivent vendredi, l'un des jours de l'année où l'aéroport est le plus fréquenté, a indiqué l'aéroport londonien. À l'origine de ce blocage inédit, une activité très ciblée qui visait à fermer l'aéroport et a causé le maximum de perturbations juste avant Noël, a dénoncé le PDG de l'aéroport, Stuart Wingate. Le ministère de la Défense a indiqué avoir déployé du matériel spécialisé pour aider la police à repérer les coupables. Il y a encore du chemin à faire, Sonia Lebel reconnaît un manque d'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles. La ministre de la Justice, Sonia Lebel, a rencontré jeudi les courageuses des victimes alléguées de Gilbert Rozon, qui lui ont fait part de leurs expériences au sein du système de justice. Une rencontre qu'elle qualifie de prise de conscience sur le manque d'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles. Mon intervention n'est pas une intervention dans le sens de donner plus de crédibilité aux courageuses versus M. Rozon. C'est pour voir dans l'administration de la justice comment je peux améliorer des processus pour qu'au moins, peu importe la décision, il y ait une compréhension et une acceptation sociale plus grande, a-t-elle précisé. La ministre Lebel réitère qu'à ses yeux, le système de justice fonctionne, mais admet que la confiance du public est ébranlée. Tout comme le premier ministre François Legault, elle se dit ouverte à l'idée d'avoir un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale. Cet élément fait partie de la réflexion, mais je veux y aller plus large. Il faut regarder le problème de façon globale, dit la ministre, soulignant qu'il y a un volet de sensibilisation au comportement sexuel qui doit se faire dès un jeune âge. Les Canadiens ne pourront pas se procurer des boissons alcoolisées infusées au cannabis malgré l'élargissement de la légalisation à d'autres produits comestibles à base de marijuana l'automne prochain, si l'on en croit les nouvelles règles proposées jeudi par le gouvernement fédéral. Ces règles précisent que les produits alcoolisés à base de cannabis ne seront pas autorisés au Canada, sauf dans les cas où la teneur en alcool est minimale, comme dans les teintures destinées à être consommées quelques gouttes à la fois et étiquetées comme non alcooliques. L'emballage ou l'étiquetage de produits à base de bière ou de vin avec du cannabis sera également interdit afin de réduire le risque de mélange de ces deux substances jugées dangereuses pour la santé. Et les entreprises qui produisent des boissons alcoolisées ne seraient pas autorisées à mettre leur nom ou leur marque sur des boissons au cannabis. Pas de miracle pour Harvey Weinstein. Un juge new-yorkais a refusé jeudi d'abandonner les poursuites pénales contre l'ex-producteur de cinéma accusé de multiples agressions sexuelles, qui devrait maintenant aller jusqu'au procès. Nous sommes évidemment déçus du fait que les charges n'aient pas été abandonnées aujourd'hui, a déclaré Ben Braffman, l'avocat de Weinstein, après une audience au tribunal de Manhattan. Nous avons l'intention de nous défendre vigoureusement au procès, dont nous sommes persuadés que M. Weinstein sortira entièrement exonéré, a assuré l'avocat parmi les plus aguerris du barreau new-yorkais. Barbe, poivre et sel et costume gris sombre, M. Weinstein, 66 ans, qui risque la perpétuité, mais est resté en liberté moyennant une caution $1 million et le port d'un bracelet électronique, et reparti immédiatement après l'audience dans un 4x4 noir sans dire un mot aux journalistes qui l'attendaient. Le mouvement Time's Up, né dans le sillage de MeToo pour défendre les victimes d'agressions sexuelles au travail, a salué le maintien des poursuites. On écoute Joanne Louin dans une chanson de Noël et on se retrouve avec le Journal de Montréal.
Joanne Blouin, Michel Legrand, Noël d'espoir.
En une. Excusez-moi ce fou rire, hein? C'est le lendemain du party de Noël, on s'est couché tard et puis c'est ça, j'ai le rire facile et pourtant il n'y a absolument rien de drôle en une du journal de Montréal. Abattu en plein jour, purge interne chez les Hells et puis aussi on peut lire condamné à payer les études de son fils et ça c'est beaucoup plus joyeux. 25 activités pour les fêtes, on y reviendra dans la dernière demi-heure de l'émission. Et oui, assassiné en plein stationnement, ça s'est déroulé hier. Le trafiquant Sébastien Beauchamp, 44 ans, est lié au groupe de motards depuis de nombreuses années. Sébastien Beauchamp est un individu avec un important passé criminel. Il a de nombreux antécédents judiciaires comme importation de stupéfiants, voies de fait graves et possession d'armes. Et il s'agit du 30e homicide à survenir à Montréal en 2018. La police ne rapportait aucune arrestation hier. L'homme atteint mortellement par balle dans une station-service du nord de Montréal aurait été victime d'une purge interne des Hells Angels autorisée en haut lieu. Et la page d'à côté, signée aussi par Félix Séguin, mais le dossier est signé aussi Antoine Lacroix, Axel Marchand-Lamotte et Éric Thibault. Mais Félix Séguin rapporte, et je vous lis une partie de ce texte, que Sébastien Beauchamp aurait entretenu une relation intime avec une employée de la police de Montréal, a appris donc notre bureau d'enquête. Cette dernière, que nous ne nommerons pas, aurait pu avoir accès à des renseignements sensibles et les transmettre à ce trafiquant. Liée de près aux Hells Angels, elle sera rencontrée par les enquêteurs. La femme en question est une employée civile du service de stationnement de la police. La chronique de José Legault, « Dans le fond, c'est quoi Noël? » Dans le fond, c'est quoi Noël? Plus les années passent, plus je me pose la question. Autrefois une fête religieuse, la célébration est devenue celle de l'achat compulsif. Le nouveau Dieu coûte cher. Cadeaux, décorations, nourriture, vin, etc. Quels que soient nos moyens, on défonce irrémédiablement son budget. Lorsqu'on a de jeunes enfants, la magie opère malgré tout. Pour les autres, ce n'est pas toujours jojo. Confession. Ma dernière virée au centre-ville de Montréal m'a donné un haut le cœur. Tout ce monde pressé, stressé, prêt à dégainer son chapelet de cartes de crédit et de cartes à points. Avec les meilleures des intentions du monde, on s'endette à date fixe. À moins de se terrer sous les couvertures, impossible d'y échapper. Et ça recommence le 26 décembre. Aubaine par-ci, vente par-là. Les cafetières coûteuses pour milléniaux gâtés et les méga-télés dites intelligentes se vendent comme des petits pains chauds. Une drôle de mode quand on y pense. Avant, comme après Noël, on prend des airs affolants de zombies de centre d'achat. Vite, scotché sur nos écrans, faut rien manquer. Très franchement, mieux vaut se calmer le pompon avant que l'huissier ne vienne le reprendre. S'il faut acheter, essayons tout au moins de modérer nos transports, tout au moins de modérer nos transports, et de favoriser nos commerçants locaux. Ils en arrachent pas mal plus que les grandes bannières de ce monde. En même temps, suspendus en dehors de la cohue, il y a ceux, de plus en plus nombreux, obligés de compter sur une banque alimentaire. Puis tous ces enfants étiquetés défavorisés, pour qui les pompiers et les organismes communautaires préparent peut-être les seuls cadeaux qu'ils recevront. Grâce aux petits frères, des personnes âgées seules ont aussi la joie de célébrer ensemble autour d'un bon repas festif. Car dans les faits, loin des centres d'achat, il y a tout plein de lutins bénévoles qui s'activent. En toute discrétion, des femmes et des hommes se déplacent avec bonheur pour donner d'eux-mêmes. Tout simplement, le plus beau cadeau, celui d'une présence partagée et chaleureuse, ils le reçoivent eux aussi en échange. Et si le vrai Noël, celui qui nous reconnecte avec son sens premier, c'était lui? Un Noël où les cadeaux du cœur n'ont pas de prix. Lorsque j'étais bénévole aux soins palliatifs, j'y ai en effet passé les plus beaux Noëls de mes années d'adulte. Quoi de plus précieux que de partager le dernier Noël? Je n'oublierai jamais Odette, une femme magnifique de douceur et ses cheveux bouclés blancs, comme ceux de ma grand-mère. Sans enfant, elle était seule la plupart du temps. Sur son lit d'hôpital, le 25 décembre, elle m'a pris la main et m'a dit ceci. « Tu sais, j'ai passé l'âge de croire au Père Noël. Mais quand tu viens me voir, je me dis que les anges, eux, existent. Oui, ma chère Odette, ils existent. À tous les anges bien terrestres qui nous entourent, je vous souhaite un très beau Noël, celui du cœur. » À la veille du congé des fêtes, les stations de ski s'apprêtent à vivre une des périodes les plus achalandées de l'année. Cependant, avec les prévisions de verglas, le Mont Orford a décidé de fermer aujourd'hui. Pour préserver le terrain, a expliqué la porte-parole du centre de ski, Mélanie Morier. Il faut environ 48 heures pour remettre les pistes en bon état. Les propriétaires de centres de ski ne craignent donc pas un manque de neige. Entre un redoux ou un grand froid qui repousse les skieurs, comme on a vécu l'année passée, les gens de l'industrie choisissent le redoux. Des soldats de l'EI suspectés d'avoir tué deux jeunes touristes, les corps de deux randonneuses scandinaves ont été découverts lundi au Maroc. Les quatre hommes interpellés pour le meurtre de deux jeunes randonneuses scandinaves dans les montagnes du sud du Maroc avaient, selon Rabat, prêté allégeance à l'organisation État islamique. Les corps des deux touristes norvégiennes et danoises avaient été découverts lundi dans une vallée du massif du Haut-Atlas, réputée pour ses sentiers de randonnée. Ils ont été transportés hier soir de la morgue de Marrakech vers l'aéroport de Casablanca, d'où ils doivent être rapatriés en Norvège et au Danemark. Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et une amie, Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, se trouvaient au Maroc pour des vacances. À Copenhague, le premier ministre danois a dénoncé un crime bestial. La première ministre norvégienne a condamné une attaque dénuée de sens sur des innocentes. Et une nouvelle plus réjouissante en terminant, le Super Week-end 24 heures Sauvons plus de vies comprenait une série de matchs de hockey à relais ainsi que du patinage libre familial. L'événement au profit du fonds Sylvain Poisson de la Société canadienne du cancer a permis de recueillir la somme de 40 253 $ pour la prévention et la recherche du cancer de la peau.
Nous filant sur la neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Les enfants de notre village chantent la joie de leur âge, et les grands murmurent de se taire. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Le bon Dieu dans son paradis doit aussi chanter avec nous, car la nature est si jolie, le bleu de son ciel est si doux. En filant sur la neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Le bon Dieu dans son paradis doit aussi chanter avec nous, car la nature est si jolie, le bleu de son ciel est si doux. En filant sur la neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver.
Vous écoutez Le quotidien des quotidiens avec Hélène Denis.
Noël, interprété par Anne René, Michel Richard et Christine Chartrand. Et juste avant, c'était Marie-Michel Desrosiers qui nous chantait « C'est l'hiver ».
Un beau doublé en cadeau de Noël. Merci Maurice. Maintenant, les nouvelles régionales, les nouvelles canadiennes, dis-je bien. Le conseil municipal de Hearst a voté à l'unanimité lors de sa réunion du mardi 18 décembre pour autoriser la vente au détail de cannabis dans la communauté. C'est dans le journal Le Nord, article de Francis Sibert, qui a été publié le 18 décembre. Considérant la décision, la ville formera un groupe de travail dans le but d'établir une déclaration politique sur le cannabis, identifiant les zones à risque pour l'établissement de dispensaires de cannabis dans la communauté. Le groupe sera formé de représentants de la municipalité, de la police provinciale de l'Ontario, du bureau de santé Porcupine ou Porcupine de l'hôpital Notre-Dame ainsi que d'agences de services de santé mentale. C'est la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario qui sera responsable de délivrer les permis en province. La municipalité et les citoyens auront cependant droit de soumettre leurs commentaires concernant toutes les demandes. Les personnes intéressées à ouvrir un dispensaire devront afficher une pancarte devant l'établissement du magasin pendant une période de 15 jours. Les citoyens pourront alors soumettre des commentaires sur la santé et sécurité publique, la protection des enfants et la prévention d'activités illégales. Maintenant, dans le journal Le Rempart, Maurice Chauvin remporte le prix Conservation Farm Award. L'environnement et les mesures de conservation ont pris de plus en plus de place dans la vie des agriculteurs au cours des 25 dernières années. Le 6 décembre dernier, Maurice Chauvin s'est vu remettre le prix Conservation Farm Award lors de l'Assemblée générale annuelle de Essex Soil and Crop Improvement Association. Le prix est présenté chaque année à l'entreprise agricole qui a su mettre en place les meilleures pratiques pour la conservation et la préservation de la qualité des sols. Plusieurs critères sont considérés lorsqu'une ferme est mise en nomination et à la fin du processus, c'est un comité de direction de l'organisme qui nomme la ferme gagnante. La ferme de M. Chauvin, qui est un fermier de sixième génération, est située à Pointe-aux-Roches. Maintenant, dans le journal La Liberté, un récent amendement à la loi sur le divorce adopté par la Chambre des communes permet à tous les Canadiens de divorcer dans la langue officielle de leur choix. Maître Daniel Boivin, président de la Fédération des associations de juristes d'expression française, commente « C'est une belle avancée. Cependant, il faut encore que le Sénat approuve le projet de loi. Il faudra aussi que l'entrée en vigueur de cette disposition de la loi soit confirmée dans toutes les provinces. » Pour ce qui est du Manitoba, ce droit de divorcer dans la langue officielle de son choix est déjà acquis. Comme l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, le Manitoba fait figure de modèle. La nouvelle loi n'aura pas d'impact énorme au Manitoba où la justice est déjà essentiellement bilingue. La loi sur le Manitoba prévoit le droit d'utiliser le français dans le système de justice. C'est ce qui fait en sorte que l'appareil de justice au complet parle en français. Cependant, Daniel Boivin souligne le manque de moyens, même dans ces provinces avantagées. On pourrait avoir plus de ressources, il pourrait y avoir plus de juges bilingues pour s'assurer de diminuer les délais d'attente. Mais au moins, le système existe pour que les francophones puissent avoir accès à la justice en français. Le président de la Fédération des associations de juristes d'expression française espère la mise en place de la loi fédérale, que ça se fasse rapidement dans les provinces dès le printemps prochain. Nouvelle publiée dans l'Aurore boréale, le journal francophone du Yukon, c'est Marie-Hélène Comeau qui a signé cet article publié le 20 décembre hier. Les lumières décoratives de Noël se multiplient ça et là dans la ville de Whitehorse chaque saison hivernale. Elles s'allument une à une, tel un élan de survie, semble-t-il, pour oublier la noirceur annonçant l'arrivée du solstice d'hiver. Les lumières de Noël évoquent à la fois la nuit la plus longue et le retour de la lumière. Cette tradition, aux origines anciennes, a la cote d'amour d'un bout à l'autre du Yukon. Pour une 20e année consécutive, la ville de Whitehorse s'invite à la fête en se parant de plus de 200 000 lumières de Noël. Si on mettait bout à bout les guirlandes de lumières de Noël, on devrait arriver à un total de 20 km de long, affirme Marc Boulris, superviseur des parcs pour la ville de Whitehorse, qui s'illumine toutes les nuits, de 16h à 10h le lendemain matin. Un des attraits les plus attendus, l'érection d'un arbre de Noël au coin de la rue Main et Front à Whitehorse, coïncide également avec l'apparition des lumières. Cet arbre compte à lui seul près de 22 000 lumières. Chaque été, quelqu'un contacte la ville de Whitehorse, nous indiquant qu'il a un arbre à couper sur son terrain qu'il pourrait bien faire pour Noël. On se rend alors sur les lieux pour vérifier si cet arbre pourrait être utilisé. Si c'est le cas, alors ATCO, l'association, se rend sur place à l'hiver pour couper l'arbre et l'amener en ville au bout de la rue Maine, où il sera érigé, explique M. Boulris. L'arbre de Noël s'intègre habituellement si bien à son nouveau décor urbain qu'à la fin de la saison, alors qu'il doit être retiré, des gens s'offusquent que la ville ait procédé, pense-t-il, à sa coupe. Il y a environ une douzaine d'années, la ville de Whitehorse a procédé au changement des bougies à incandescence qu'elle utilisait traditionnellement pour des ampoules de diodes électroluminescentes appelées DEL. Ce changement permet à la ville d'économiser la consommation électrique. Pour l'arbre de Noël au coin de la rue Maine, nous n'avons besoin que d'une source d'électricité alors qu'autrefois nous en avions besoin de trois, confie M. Boulris. En décembre, la ville de Whitehorse organise aussi des tournées gratuites en autobus afin de permettre aux citoyens de découvrir les bâtiments et les maisons illuminées pour Noël. Chaque année, un grand nombre de participants montent à bord des autobus dont les départs se font du parc Shipyards. Quelques jours avant l'événement, je fais le tour du quartier pour sélectionner les maisons les plus décorées qui feront partie de la tournée. Les propriétaires ne sont pas visés. Ils peuvent toutefois le deviner lorsqu'un autobus ralentit devant leur maison avant de reprendre son cours, explique Lindsay Agar, coopératrice d'événements corporatifs pour la ville de Whitehorse. À ce propos, la maison de Marc Champagne, directeur de la Commission scolaire francophone du Yukon, est souvent sélectionnée pour cette tournée. Décorer la maison est une activité qui me plonge dans mes souvenirs d'enfance. C'est une activité familiale et mes garçons m'aident à installer des lumières. Cela me prend plusieurs heures, mais je suis toujours très heureux de revenir chez moi le soir et voir ma maison illuminée. Je reçois aussi beaucoup de commentaires de mes voisins qui apprécient les belles lumières. Cette année, toutefois, la faible quantité de neige accumulée cet hiver à Whitehorse change quelque peu les plans. Je dois construire des supports pour placer les animaux et les objets sur mon parterre et mon toit. Le manque de neige m'empêche de placer toutes mes lumières en ce moment. Pour la première fois, l'édifice de la Gendarmerie royale du Canada fera partie de la tournée puisqu'il a décidé cet hiver de le garnir de lumière rouge. Il s'agit d'un partenariat avec l'organisme Mothers Against Drunk Driving, dont l'opération Ruban Rouge sensibilise les gens contre l'alcool au volant. Nous espérons ainsi que ces belles lumières rouges seront davantage qu'une simple décoration. Elles serviront aussi à faire penser aux conséquences de la conduite avec des facultés affaiblies. Les gens qui passeront devant le détachement verront ces lumières et les admireront, mais ils se souviendront aussi de l'importance de planifier un retour sûr chez soi pendant les fêtes, rappelle le surintendant principal de la division M de la GRC, Scott Shepherd. Et dans le Franco, le seul journal francophone en Alberta, le Centre d'accueil francophone en collaboration avec la paroisse Sainte-Famille de Calgary et le Centre d'appui familial du sud de l'Alberta ont proposé samedi 15 décembre un marché solidaire à la Cité des Rocheuses de Calgary. Une centaine de familles francophones dans le besoin ont pu profiter de l'initiative qui offrait jusqu'à 200 $ de nourriture pour chacune d'entre elles. Dans le passé, on offrait des paniers de Noël, mais cette année, avec le marché solidaire, les familles ont eu l'occasion de choisir la nourriture, explique Sarah Lessard, directrice générale du Centre d'appui familial. Ce concept a aussi été préféré au panier de Noël pour favoriser le contact et les échanges avec les familles, rapporte Alexandra Aresina, coordonnatrice du Centre d'accueil francophone de la Cité des Rocheuses de Calgary. Inspiré des magasins de partage du Québec, ce concept proposait également des denrées périssables, se rapprochant à l'idée des fêtes de fin d'année. Les familles pouvaient, par exemple, avoir accès à de la dinde, du poulet, des fruits et des légumes. Pour cette première collaboration entre les trois organismes francophones, c'était un succès. Les dons financiers et les denrées ont été collectés auprès de 13 points de collecte, dont des écoles de la région de Calgary et le concert de Noël organisé dans la ville. Des dons ont aussi pu être collectés sur Internet jusqu'à la fin de novembre. Vous écoutez le quotidien des quotidiens. Un grand merci de le faire. À venir, une chanson de Noël signée, bien pas signée vraiment, mais chantée par Céline Dion. Et il y aura aussi un segment culturel. Beaucoup, beaucoup de suggestions sorties pour le congé des fêtes.
yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes on the glow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
The Christmas Song par Céline Dion.
25 activités familiales pour le congé des fêtes, c'est dans le Journal de Montréal, Daniel Choquette. Dans les jours qui viennent, on prendra enfin le temps de se détendre et de s'amuser. Voici donc quelques suggestions d'activités à faire en famille et entre amis. Noël dans le parc. Jusqu'à Noël, inclusivement, on pourra entendre de la musique, manger des saucisses, boire de la bière ou du vin chaud au parc des Compagnons et à la place Émilie-Gamelin. Les derniers spectacles auront lieu dimanche. Mara Tremblay chantera à la place Émilie-Gamelin à 21h30, en soirée donc. Et c'est donc jusqu'au 25 décembre au Parc des Compagnons et à la place Émilie-Gamelin. Tout est gratuit. Montréal en fête. Dans le Vieux-Montréal, on fête à la place Nordique où il y aura des foyers de bois, des pauses gourmandes, des chorales, des conteurs, de la zumba, des animations festives. Et le Vieux-Montréal, l'hiver, c'est... Bien, c'est toujours beau, de toute façon, le Vieux-Montréal, mais il me semble qu'il y a quelque chose de très magique quand il y a de la neige plutôt que de la pluie. C'est jusqu'au 30 décembre à la place Nordique, quai Jacques-Cartier, les jeudis, les vendredis de 16h à 21h et les samedis, dimanches de midi à 21h, et c'est gratuit. Des piñatas pour Noël. À la Maison de la culture Mercier, on nous propose des visites animées des joyeuses crèches de Dominique Trudeau et un atelier de création d'une piñata. On y va avec la famille ou les amis. C'est donc à la Maison de la culture qui est située au 8105 8105 rue Hochelaga. Le 22 décembre demain à 15h, le 27 décembre à 14h et le 29 décembre à 14h aussi. Et c'est gratuit. Autre activité gratuite pendant le congé, on pourra assister à l'heure du conte pour les 3 à 5 ans, un atelier de tricot pour les 9 à 13 ans, ainsi qu'à des projections de films à la Grande Bibliothèque. On verra toujours à 14h Mission Noël, samedi 22 Pan, vendredi 28 Paddington 2, vendredi 4 janvier. Alors donc, on verra toujours à 14h, c'est ça, Mission Noël, samedi 22 Pan, vendredi 28 Paddington 2, vendredi 4 janvier. Samedi 5 janvier de 14h à 17h aura lieu un bal en chaussettes pour les plus de 3 ans. Il y a aussi un tournoi de jeux vidéo le 30 décembre pour les 9 à 13 ans et de 14 à 16h. Vous pouvez consulter le site de la Grande Bibliothèque. Qui est le vrai Père Noël? Ça, c'est vraiment une tradition depuis plusieurs années que ça existe. Est-ce Babouchka, Pierre Lenoir, Melchior ou celui qu'on connaît tous? Les enfants de 4 à 9 ans pourront le savoir si vous les emmenez au musée. C'est jusqu'au 31 décembre au musée de Pointe-à-Calière. Les 22, 23, 24 et du 26 au 31 décembre, tarifs divers, activités incluses dans le prix d'entrée générale. Et toujours à Pointe-à-Calière, l'exposition qui devrait certainement attirer plusieurs personnes pour souligner le 25e anniversaire de la petite vie. Le musée Pointe-à-Calière nous invite à mieux connaître l'univers de ces personnages qu'on a tant aimés. On visite l'appartement de Maman et Papa. On se fait photographier dans leur lit vertical. On danse la bamba avec Pinson. Je ne sais pas si on nous sert du pâté chinois. Mais on va savoir si on va faire un tour au musée Pointe-à-Calière. C'est ouvert tous les jours jusqu'au 6 janvier, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Tarifs divers, 45 $ pour une famille. Et l'exposition La petite vie est présentée jusqu'au 7 avril. Au Zoo Econo Éco-muséum. C'est jusqu'au 6 janvier. Le zoo nous propose une sortie toute spéciale, 5 fois par jour. Entre 10h30 et 15h30, on pourra voir des lutins offrir des cadeaux aux animaux. Des gâteries, il va sans dire. C'est ouvert tous les jours donc de l'année, sauf à Noël. Le zoo Éco-muséum, c'est à Saint-Anne-de-Bellevue. 10 $ pour les 3 à 15 ans et 17 $ par adulte. Il y a également la patinoire du Vieux-Port qui sera ouverte tous les jours de 10h à 22h jusqu'au 6 janvier. Le 31 décembre, elle fermera à 1h du matin. On peut y louer des patins et profiter du bistrot. Les feux de glace auront lieu à 20h les samedis 22 et 29 décembre ainsi que le 5 janvier. Jusqu'au 10 mars, la patinoire vous attend. Donc, je pense que ce n'est pas ouvert aujourd'hui. Il faudrait consulter en allant sur le site Internet. Fantasy sur patin à l'Atrium. Jusqu'au 6 janvier, la patinoire de l'Atrium, le 1000, sera ouverte de 11h à 22h tous les jours, sauf les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, alors qu'elle fermera à 17h. Atrium 1000 est situé au 1000 de la rue de la Gauchetière. Il y a des tarifs divers. Et aussi du plein air dans les parcs. On peut avoir envie de faire des sports divers sans posséder l'équipement dans les parcs Pointe-aux-Prairies, Bois de Liesse, Île de la Visitation et Cap Saint-Jacques, l'organisme guêpe loue des skis de fond, des patins ou des luges ou des tapis à glisser. On consulte, l'adresse est quand même assez longue, guêpe, sans accent, .qc.ca ou lemontroyal.qc.ca/fr. Je répète, guêpe.qc.ca ou lemontroyal.qc.ca/fr. Je poursuis dans les suggestions sorties. Il y a, sur le Mont-Royal, on peut faire toutes sortes d'activités à la montagne. Près du lac au Castor, la patinoire est réfrigérée. Alors là, je ne sais pas si elle l'est toujours. Pour voir ce qui est possible selon la neige, consultez le site à condition de site hivernaux. Si ce n'est pas au rendez-vous, une balade au Belvédère, Condiaronque au Camillien-Houde est toujours agréable. Passager, c'est un spectacle à ne pas manquer. Passager présenté par la compagnie de le cirque Les Sept Doigts, anciennement Les Sept Doigts de la Main, qui sont devenus Les Sept Doigts, point. C'est jusqu'au 5 janvier, il y a des supplémentaires. C'est à la TAHU, les billets s'envolent vite, vite, vite. Alors, allez faire votre tour sur le site ou à la TAHU, le lieu physique. Au musée Stuart, aimeriez-vous voir les jolies vitrines des boutiques de Paris au 18e siècle? Eh bien, cette exposition présentée jusqu'au 24 mars est agrémentée d'un volet famille pendant les fêtes. Les enfants entendront le conte « La Belle et la Bête » tous les jours à 11h et à 14h. Vont participer à un jeu interactif et fabriquons une boule de Noël. Le musée Stewart est donc ouvert tous les jours, sauf à Noël et au jour de l'an. Tarif 10 $ pour toute la famille deux adultes et trois enfants. On pourrait s'arrêter, Maurice, je vais continuer après les suggestions puis d'autres sujets. Mais j'aimerais ça que vous me présentiez cette chanson que vous, vous avez envie de nous faire découvrir, qu'on entend depuis quelques jours. Là, c'est une nouveauté assez rigolote.
Oui, c'est le duo Seba et Orgue qu'on connaît, ben, un duo de rappeurs.
Oui, qui chante...
Le magasin Une Pièce, entre autres.
Vintage à l'os. Ouais, on l'a joué la semaine passée avec Mathieu. C'est très rigolo.
Ils sont avec Eric Speed, c'est un violoniste, et Le Vent du Nord. Ils revisitent la pièce Falala.
Sous le titre...
Falala Fresh.
Hey yo, c'est beau.
Qu'est-ce qu'il y a, Org?
Sens-tu le temps des fêtes?
Non, je sens rien.
Hey, pour moi, le temps des fêtes, c'est comme la musique de Noël.
Ah, ça, j'aime pas ben ça, là.
Hey, doit bien en avoir une que tu trouves pas pire.
Wow, je sais pas ben.
Ouais, ben, OK, ben, check ben ça d'abord.
On peut se permettre de se mettre gurlo. On rentre technique rouge ou ben en métro. On souhaite les meilleurs vœux, puis on s'embrasse. On s'échange des cadeaux du magasin à une pièce.
La saison des parties de bureau.
Le 24, les femmes de bar, puis les hommes de l'eau, qui tombent dans le fort, puis vomissent sous clos. Il est pas pacté.
Ah non, pas tellement.
Bonne année, granny.
Pareillement, grande dame.
Jusqu'à la Naudière
et du Saguenay jusqu'à Montréal.
La Côte du Mont-Carré, puis il est passé minuit. La voisine d'en bas qui chante pour qu'on fasse du bruit. On mange du bon manger,
c'est un vrai régal.
Puis on fume le sapin,
ben, c'est devenu légal.
Falala Fresh par Seba et Org, qui était avec Eric Speed et Le Vent du Nord.
Bon, mais c'était cette version-là qu'on va écouter maintenant. Il y a Falalala de Boondock et d'autres, mais celle-là est fresh, c'est le cas de le dire. Et Maurice me faisait remarquer que quand j'annonce que les prix sont divers, ici, ça peut être confondant, mais je parle des prix divers, D-I-V-E-R-S. Alors, il y a une variété de prix. Maintenant, on poursuit avec un jeu qui s'appelle Prisonnier du camp S-43. Les amateurs de jeux d'évasion pourront revivre un épisode de l'histoire de Montréal ayant eu lieu entre 1940 et 1943, alors que 400 marins, marchands et civils italiens ont été détenus au fort de l'île Sainte-Hélène pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se déroule les 22 et 29 décembre, demain et samedi prochain, ainsi que le 5 janvier au musée Stewart. On réserve sur le site. Le musée en cadeau. Pendant les fêtes, l'entrée est libre au Musée des beaux-arts de Montréal pour les expositions découvertes et les collections permanentes du 22 décembre au 6 janvier au Musée des beaux-arts. Le musée est fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Au MBA avec les enfants, toujours au Musée des beaux-arts, trois ateliers sont offerts aux familles. On pourra créer des cartes de Noël à l'atelier en continu entre 10h30 et 16h30. les 22, 23, 26, 27, 28 décembre et les 2, 3, 4 janvier. Les autres ateliers ont lieu les samedis et dimanches. On présente aussi plusieurs films, Heidi, les 22 et 26 décembre, ainsi que le 5 janvier, Le secret de la montagne bleue. On présente aussi Le royaume de glace, Christmas Story. Les représentations sont à 13 heures. Et ça, c'est au Musée des beaux-arts. Le grenier au trésor, cette fois au Musée McCord, je vous en ai parlé, je pense, cette semaine, mais là, c'est autre chose. On présente une exposition, Le grenier au trésor, dans laquelle on découvrira une multitude de jouets de 1890 à aujourd'hui. C'est bien cela. On lit une histoire aux enfants à 11 heures, on bricole lors d'un atelier et on suit un jeu de piste jusqu'au 6 janvier au Musée McCord, qui est ouvert le mercredi de midi à 21 heures, jeudi, vendredi de 10 à 18 heures, samedi et dimanche de 10 à 17 heures et les tarifs sont divers, des IVERS. Des jeux d'eau gonflables. Normalement, les jeux d'eau gonflables Wibit ou Wibit sont accessibles les dimanches au centre sportif du parc olympique. Pendant les fêtes, les jeunes pourront aussi s'y amuser du 27 au 30 décembre de 10h à 16h55. Il faut avoir plus de 6 ans et savoir nager au centre sportif donc du parc olympique les dimanches. Du théâtre, bon. Bon, c'est le titre de la pièce. Pour les enfants de 2 à 6 ans, le théâtre de quartier propose une première expérience théâtrale, une incursion au cœur des mots. Bon comme c'est bon comme c'est pas bon. C'est jusqu'au 6 janvier au théâtre Outremont et c'est à 11 heures pendant le temps des fêtes. 15 $, c'est le prix du billet. Des pieds et des mains, et les privés d'une main, lui est privé d'un pied. À deux, la situation se rétablit. C'est une pièce de théâtre pour les enfants de 6 ans et plus et c'est présenté à la 5e salle de la Place des Arts les 28, 29, 30 décembre à 14h. Pyjami à la Maison Théâtre, s'il reste des billets, vous pourrez emmener vos enfants de 3 à 8 ans voir la pièce Pyjami à la Maison Théâtre les 22 et 23 décembre, du 27 au 30 décembre, du 3 au 6 janvier et on arrive et on assiste à cette pièce en pyjama, évidemment, à la Maison Théâtre. Corteo jusqu'au 30 décembre, souvent deux représentations par jour, c'est au Centre Bell. Dans une ambiance de fête foraine, un clown imagine ses propres funérailles sous le regard d'anges bienveillants. On le suit dans les plus beaux moments de sa vie. C'est une nouvelle création du Cirque du Soleil. En fait, c'est une reprise, mais cette fois-ci présentée en aréna et la critique est vraiment enthousiaste. Une réussite pour cette production du Cirque du Soleil. Champagne, Charlotte et crinoline. Si vous souhaitez découvrir les tendances de Noël en vogue à l'époque victorienne, vous pourrez faire ce voyage dans le temps. Confection de cartes de souhait, dégustation de champagne sucré à 16 heures, exposition de vêtements, etc. Et c'est du 26 au 30 décembre de 10h à 17h, lieu historique national de Sir Georges-Étienne Cartier, qui est situé au 458 rue Notre-Dame-Ouest et les tarifs varient entre 3,90 jusqu'à 7,80. Il reste deux autres suggestions. On va passer après avec... on va vous proposer une petite chanson de Noël. Le village du Père Noël. Vous aimeriez sortir de la ville? Au village du Père Noël, les enfants jouent, rencontrent des animaux de ferme, font de la glissade et de la trottinette de neige. Le Père Noël sera présent tous les jours sauf le 25. Il est bien occupé le 25, le Père Noël. C'est pour les enfants de 2 à 8 ans jusqu'au 6 janvier à Val-David, 18 $ par personne. Et finalement, au cinéma, évidemment, un congé des fêtes ne serait pas totalement satisfaisant sans une séance au cinéma. Le retour de Mary Poppins, Pat et Matt à Noël, Spider-Man dans le Spider-Verse, Marie, Reine d'Écosse, La course des tuques, Ralph brise l'Internet, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, le livre de Green et le film que je veux voir, j'en parle souvent à Maurice, Le Grand Bain et bien d'autres. On est gâtés. cinemamontréal.com/fr. Vous pouvez aller aussi sur le site de Cinoche.
Sweet silver bells all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is
is our song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, o'er hill and dale, telling the tale. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is our song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, o'er hill and dale, telling the tale. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas.
Carol of the Bells par Dina Carter.
Regard sur 2018, les jeunes médaillés aux Jeux paralympiques d'hiver annoncent un avenir brillant. Comité paralympique canadien qui a envoyé un communiqué. 19 athlètes canadiens, dont deux guides, ont gagné leur première médaille en carrière aux Jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang cette année. Dans ce groupe, 12 avaient moins de 25 ans et 5 étaient encore des adolescents. Ce mouvement de jeunesse a eu un énorme impact sur la performance record du Canada aux Jeux, qui a été de 28 médailles, 8 d'or, 4 d'argent et 16 de bronze, pour la deuxième place derrière les États-Unis. Cela promet bien aussi pour les chances de médailles du Canada dans 4 ans, quand Beijing présentera les Jeux paralympiques d'hiver en 2022. La plus jeune membre de l'équipe paralympique canadienne était Nathalie Wilkie, âgée de 17 ans, de Salmon Arm en Colombie-Britannique, qui a récolté pas moins de 3 médailles en ski de fond paranordique. Wilkie, qui a perdu 4 doigts de sa main gauche dans un accident dans un atelier scolaire en 2016, commencera aussi à concourir en biathlon cette saison, ce qui augure bien pour des performances encore plus impressionnantes aux Jeux dans le futur. L'équipe paranordique a dominé le défilé de médailles du Canada avec 16 présences sur le podium. Il y a aussi eu des performances impressionnantes par des adolescents en ski para-alpin et en para-hockey sur glace. Sur les pentes, Molly Jepson de Whistler a explosé sur la scène internationale avec 4 médailles, récoltant celle d'or en super combiné, celle d'argent en slalom et celle de bronze en descente et en slalom géant. Alexis Guimond, âgé de 19 ans de Gatineau au Québec, et Kurt Otway et Alana Ramsey, tous deux de Calgary, ont aussi décroché leur première médaille paralympique. L'équipe de para-hockey sur glace incluait 7 joueurs médaillés pour la première fois. En curling, en fauteuil roulant, Mary Wright et James Unsou ont fait leur début aux Jeux paralympiques et ont aidé le Canada à remporter la médaille de bronze. Et ça fait partie de la page consacrée à la chronique de José Blanchette dans la section Joe Blog. Noël Laflamme offre ses services de correction de texte en français au Salon G de l'UQAM 5 jours par semaine. Ce n'est pas gratuit, 6 $ la page de 400 mots, et ce n'est pas si payant non plus pour un minutieux comme lui. Noël est assis dans le café 5h15 par jour, des bouchons dans les oreilles pour échapper un peu au reggae ambiant. Cet ancien professeur de français langue seconde, devenu traducteur, a la phobie de l'anglicisme et de la structure boiteuse. Il corrige de tout, du petit travail à la thèse de doctorat. Mes clients sont surtout des étudiants dont la langue maternelle n'est pas le français. Antidote ne règle pas tout. Noël approuve la réforme de l'orthographe même s'il fréquente le Grand Robert et le Trésor de la langue française. Et pour l'anecdote, la mère de Noël aimait tellement la fête du petit Jésus qu'elle a prénommé un de ses 13 enfants Noël et une autre Noëlla. Je ne saurais vous dire si ça rend Noël plus joyeux. Science et la découverte de l'année est les nouvelles technologies révélant la façon dont l'ADN envoie un signal à chacune des cellules pour que ces dernières se développent à travers le temps ont été qualifiées hier de découverte de l'année 2018 par la revue américaine Science. Selon les experts, ces méthodes vont transformer la science au cours des prochaines décennies en permettant de dresser un tableau de plus en plus précis des processus de vieillissement, de guérison et des maladies. De même qu'une partition musicale indique quand les cordes, les cuivres, les percussions et les instruments avant doivent jouer pour créer une symphonie, une association de technologies révèle quand les gènes de chaque cellule s'activent pour donner le signal aux cellules de jouer le rôle spécialisé, a estimé la revue. Le résultat est une capacité à suivre le développement des organismes et des organes à un niveau de précision époustouflant, cellule par cellule et à travers le temps, a-t-il poursuivi. C'est tout pour le quotidien des quotidiens de ce vendredi 21 décembre. Un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute tout au long de la saison. Je vous retrouve, je l'espère bien, le 7 janvier 2019. Je vous offre mes meilleurs vœux du temps des fêtes et une année 2019 en santé et avec tout ce que vous voulez, ou presque. Faut quand même cultiver le désir. Un grand merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Joyeux Noël, à bientôt!